Et ouais, j'ai choisi de pas être patron là. Donc tout ce qui je renonce au statut social qui peut y avoir, la forme d'excitation aussi qui va avec. Peut-être que ça me reprendra en demeurant, hein, je sais pas. Mais c'est renoncer à tout ce que ça peut avoir de nourrissant, de bouillonnement, etc. Et de vie et de reconnaissance. Et pour autant, je trouve de la vie et de la reconnaissance et de la relation ailleurs. Et puis de la reconnaissance, j'essaie juste de la donner de moi à moi, indépendamment de ce que je peux faire.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans coupe, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je vais vous présenter un homme exceptionnel. Nous sommes rentrés en contact lorsqu'il s'est investi dans la campagne électorale auprès de Claire Desmarais-Poirier, que j'ai interviewé au début de l'année. Toutes mes excuses pour la qualité du son, qui n'est pas exceptionnelle, elle, mais ça vaut vraiment le coup d'écouter cet épisode, qui est d'une extrême richesse. Avant de vous en dire plus sur Arnaud, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous ne le saviez peut-être pas, mais j'ai créé un bilan de compétences nouvelle génération pour vous permettre d'écouter votre petite voix. Ce programme est finançable à 100% avec votre CPF. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Revenons-en à Arnaud. En tant que fils de buraliste, il a l'entrepreneuriat dans le sang. Il a fait Centrale Paris et une spécialisation à HEC en dernière année. Arnaud voulait entreprendre, mais n'ayant pas une grande confiance en lui et une aversion au risque, il a eu une approche très méthodique de la chose. Il a donc commencé sa carrière chez Accenture et a ensuite choisi son entreprise en fonction de sa géographie, car il voulait revenir en Bretagne. C'est donc lorsqu'il était au Crédit Mutuel de Bretagne qu'il a eu l'idée de créer Symphonis, aujourd'hui connu sous le nom de Fortuneo. Suite à cela, il sera chef de plusieurs entreprises sans être jamais actionnaire. Depuis 2 ans, il a changé de vie en quittant ce statut si prisé. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Arnaud Giraudon. Bonjour Arnaud.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ?
Ah, l'objet, il s'agit de mon smartphone. Voilà, ce smartphone est... Il me représente assez bien parce que déjà c'est un compagnon fidèle sans lequel je suis vite perdu. Il m'apporte beaucoup de légèreté dans ma vie parce que j'ai à peu près toute ma vie dedans, mes cartes bancaires, l'accès à toutes sortes d'applications de drive. J'aime bien être léger et ça me permet cette légèreté. Et en même temps, c'est parfois une sorte d'esclave et je goûte de plus en plus les moments où je peux m'offrir des demi-journées, des journées, voire plus déconnecté de ce qui m'abreuve voilà, comme message.
Récemment, il y a quelqu'un qui me disait, je crois que c'est mon mari qui me disait ça, qu'il avait entendu ça dans un podcast ou à la télé. Si tu ne devais avoir que 3 applications sur ton téléphone, quelles seraient-elles ?
Google Drive, parce que Google Drive, c'est important parce que j'ai tout, je stocke beaucoup de choses là-dedans, donc c'est vraiment important. Une messagerie instantanée, on va dire Signal. Voilà, pour échanger avec mes proches. J'aime bien partager, c'est une façon de créer du lien, envoyer des images, partager du beau avec les gens que j'aime, ou envoyer des messages aussi parfois, tout simplement par souci d'efficacité, donc la messagerie est instantanée. Une troisième, je ne sais pas, ça manque de poésie, mais une application bancaire, parce que c'est bien pratique au quotidien pour faire tourner la boutique.
Et puis ça correspond bien à ton parcours aussi.
Exact.
Est-ce que tu peux nous, avant de parler justement de ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ?
Moi, j'ai grandi à Lannion, dans les Côtes d'Armor, pas trop loin de la mer, pas trop loin de la côte de Granit Rose. Et j'ai grandi dans un commerce. Mes parents tenaient à tabac-librairie.
Ok.
Donc, dès que j'ai su compter, je vendais des cigarettes et des livres et des bonbons également. Très important, les bonbons. Et donc, j'ai toujours le commerce et la maison, c'était le même endroit. En fait, les gens, ils venaient. Et puis, derrière la porte, c'était là où on vivait. Donc, j'ai jamais fait trop de différence entre le monde professionnel et personnel. C'est un clivage qui ressemblait à une porte battante qui était bien souvent ouverte. Et puis, avec des clients qui étaient parfois des amis, j'ai aussi cultivé ce goût du contact aux autres. Le principe, le commerce, quoi, le principe étymologiquement, c'est le plaisir d'échanger savoir reconnaître les gens par leur prénom et interagir rapidement avec eux. Parce que quand on vend du tabac, ça va vite, quoi. C'est une forme de jubilation dans cet univers de tourbillonnant. Et puis un univers d'entrepreneuriat aussi, hein, parce que mes parents ont repris ce petit commerce-là, ils étaient tout jeunes. Ils avaient 25 ans, je crois, quelque chose comme ça, moins de 25 ans. Et donc c'était l'entrepreneuriat où il fallait se débrouiller, il fallait prendre des initiatives. À l'époque, mon père avait lancé, racheté des vieux bouquins bretons qui revendaient aussi. Donc c'était une librairie générale, mais aussi une librairie de vieux livres bretons. Donc c'était innovant. Il faisait de la vente à distance de vieux bouquins bretons. Donc c'était aussi montrer qu'on pouvait entreprendre où qu'on soit, si on était un peu créatif. Donc ça ouvre le champ des possibles, on va dire.
Ouais. Et quel type de petit garçon tu étais ?
J'étais un enfant sage. J'étais un élève studieux. Je m'ennuyais assez vite. Donc je travaillais bien à l'école. J'aimais bien faire plaisir à ma maman en ayant des bons résultats.
Vas-y, vas-y, je te dirai après.
Des fois, je vois des photos de moi quand j'étais là, je dis oh là là, c'est une photo de carte postale. Non, j'avais de la vie, hein. J'avais beaucoup d'énergie, etc. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu de ça.
et à cette époque-là, tu disais, quand je serais grand, c'était quoi ton rêve ?
Quand j'étais tout petit, là, comme ça, vers 7-8 ans, j'étais assez tenté par avocat. Il y avait un sens de la justice, j'avais envie de défendre ce qui me paraissait injuste. Voilà. J'étais une vision assez manichéenne du bon et du mal. Donc ça me plaisait bien, cette idée-là.
Et après, ça évolue comment, ces rêves que tu...
J'ai dû passer, alors avec l'âge, en grandissant, j'ai dû passer par archéologue, parce que le copain de mon père qui était archéologue, je trouvais ça assez sympa. J'étais fasciné par les Égyptiens. Voilà. Et puis, assez rapidement après, c'était je voulais faire patron, je voulais faire entrepreneur. Ouais, 12-13 ans, assez tôt, ouais, c'était ça, créer des entreprises, c'était mon truc.
Et à partir de quand, du coup, tu as commencé à avoir des premières idées de business ?
J'ai une approche très, très scolaire de la chose. Ça ne m'est pas tombé tout seul, on a dû me le suggérer, mais moi, je me disais que si je faisais les bonnes écoles et que je suivais les bonnes études et que j'acquérais les bonnes compétences, alors j'allais avoir les outils pour entreprendre. Donc c'était quelque chose de plutôt hypothético-déductif que le contraire. C'était pas « j'ai une idée et je vais la mettre en œuvre », c'est « je vais acquérir toutes les compétences et je vais pouvoir bien déployer, je serai un bon manager, un bon patron ». Donc ça s'est fait à l'inverse quoi, finalement.
Et à partir du moment où il avait fallu choisir du coup de faire des études, comment ça s'est passé pour toi ?
Quand il s'est agi de faire des études, moi très très tôt, mais c'est bizarre, très tôt je voulais. C'est ma mère ou mes parents voulaient que je fasse des études dans des grandes écoles avec le côté prestigieux que ça pouvait avoir. Je pense que c'était une forme de revanche sociale dont j'ai hérité. Et puis ça devait rassurer, ou une forme de prestige, d'orgueil, je ne sais pas. Donc j'ai hérité de ça. Et comme j'étais bon élève, je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais. Mais j'avais une grosse sensibilité jusqu'en terminale dans tout ce qui était matière littéraire. En fait, j'étais assez. Je faisais beaucoup de poésie. Mais je suis un littéraire contrarié, ou je ne sais pas. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était ça, c'était la poésie, la littérature, le théâtre, le chant, la musique, tout ça. Et puis, un peu par peur de je ne sais pas quoi, je me suis dit, puis ça marchait bien en sciences quand même, quoi, donc je me suis dit, les maths, je trouvais assez, à partir de la terminale, je commençais à trouver ça assez beau, les mathématiques, donc j'ai trouvé une forme d'esthétique dans les mathématiques.
Oui. D'accord.
Voilà, c'est l'esthétique, les mathématiques un peu abstraites qui commençaient à me séduire. Et du coup, je me suis orienté plutôt là-dedans, en me disant que je finirais toujours en commerce, parce que c'était fondamentalement ça qui m'intéressait. Voilà, donc je m'étais dit, si ça ne se passe pas bien en maths sup, tout ça, ben je pourrais toujours faire un prépa HEC, mais ça s'est bien passé. Donc je me suis vraiment pris de passion pour les maths pures, c'était rigolo. Voilà.
Et donc tu as intégré Centrale Paris, ce qui est quand même dans le top 5 des écoles d'ingénieurs, donc j'imagine que tes parents étaient fiers.
Oui. Si, si. Ouais. Mais oui, il y a sûrement ça. Mais ce que je voulais faire, c'était en fait, je voulais faire une. En fait, HEC me tentait depuis longtemps, quoi. Et du coup, j'ai fait ma dernière année centrale à HEC. Et comme ça, et puis à Centrale, en fait, je faisais que de la junior entreprise, c'était mon truc, quoi. Donc, j'ai mis toute mon énergie, j'étais tout le temps fourré à la junior entreprise. Donc, c'est une sorte d'entreprise dans l'école, quoi. Et donc, j'ai créé un réseau européen de junior entreprise. J'étais au Brésil mettre en place les junior entreprises là-bas. Je lançais des projets d'export avec des PME du coin, etc. Donc, c'était mon truc, quoi. Et j'ai pu, sans bourse dédiée, parce que mes parents n'étaient pas très riches, aller faire ma dernière année de centrale à HEC en parallèle, comme ça, sans perdre de temps. Et dans le cadre d'un programme très spécifique, je crois qu'on était deux à en bénéficier. Et puis, on a créé avec un collègue l'option création d'entreprise à Centrale. À l'époque, ce n'était pas du tout la mode, il n'y avait pas de fonds d'investissement. On était deux. Voilà. Et on était tous les deux venant de la junior entreprise, d'ailleurs, mon copain Stéphane Deuche. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça,
C'était en
effectivement.
80, c'était en 90, 91.
90, 91, ouais, c'est ça, voilà. Donc l'option se créait, quoi. C'était pas la mode.
Oui, ben non, clairement, c'est un sujet dont on discute souvent avec les entrepreneurs. C'est qu'avant, entreprendre, c'était pas du tout à la mode. Aujourd'hui, être salarié, c'est plus du tout à la mode. Il faut entreprendre.
Oui, voilà, exactement. Les diktats, en général, j'aime bien m'en méfier, mais voilà. Mais voilà, bon, donc c'était ça qui me titillait pas mal à l'époque, quoi.
Et donc pour ton premier job, donc t'as été salarié, t'as été chez Accenture, tu
Bah, en
voulais
fait, j'ai
pas.
créé,
Pardon, oui, vas-y.
j'ai créé, j'ai, en fait, j'ai créé mon entreprise décentrale en fait avec mon
D'accord.
copain Stéphane. Et j'ai fait à peu près toutes les bêtises possibles et imaginables à cette occasion. C'est-à-dire on est parti du savoir-faire technologique. Moi, je savais rien faire. Je suis un faux ingénieur, donc je sais rien faire. Mais le copain Stéphane il est super doué. Donc on a essayé de faire une carte électronique. Et comme il savait faire des choses très compliquées, on a fait une carte électronique très compliquée. Et après, on s'est dit à qui on pourrait la vendre. Et je suis allé voir. Alors pour le coup, j'étais un peu commerçant. Je suis allé voir des gens. Il s'est avéré que notre prouesse technologique ne répondait pas forcément à un besoin particulier, mais on a quand même trouvé un distributeur dans l'univers des cartes comme ça qui nous a dit, ouais, c'est super, mais donnez-moi l'exclusivité. On était tout content et on lui a donné l'exclusivité et il n'en a vendu aucune, donc c'était extraordinaire comme expérience. Et donc ça m'a un peu calmé, mais on s'en est sorti quand même. On n'a pas perdu d'argent, on a vendu quelques cartes, mais donc voilà, ça c'est ma première expérience. Qui n'a pas été excessivement concluante, mais Stéphane, fort de son bagage technique, lui, il a continué. Et puis, du coup, moi, je n'avais pas confiance en moi. Et je m'étais dit, bon, comme il fallait que je vienne consolider mes compétences et techniques et gestionnaires en rentrant dans un cabinet de conseil qui allait m'apporter méthodologie, conduite de projet, etc. J'avais besoin de me fortifier. En tout cas, je ressentais ce besoin-là, et qui était tout à fait pertinent au regard de ma première expérience dans l'entrepreneuriat.
Tu l'avais vécu comme un échec?
Pas particulièrement, parce qu'on avait fait un peu de sous. Mais le point, c'est qu'à l'époque, il fallait partir au service militaire, donc c'était pas évident. On a mis des collègues à gérer la boîte en parallèle, mais on l'avait vraiment créé, on avait fait la compta, on était parti, quoi. Non, je n'avais pas vécu un échec, pas à l'époque, en tout cas. Voilà, c'était juste. Je me sentais pas prêt, quoi.
D'accord.
Sentiment d'humilité, humilité qui d'ailleurs était assez fondée.
C'est assez amusant parce que enfin, on voit vraiment que tu es hyper méthodique, que tout est bien construit, enfin, pour avoir vraiment des bases hyper, hyper solides avant de construire les magnifiques choses que tu as faites par derrière.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'était ça, c'était ma. Je voulais tout apprendre de l'entreprise. Je n'ai pas tout appris, ça serait prétentieux, mais je voulais être bon en gestion, en commerce, en informatique, voilà, en opération, tout. Voilà, je voulais. Parce qu'en fait, je n'avais pas confiance en moi, je n'ai toujours pas particulièrement confiance en moi. Du coup, c'est une façon pour moi, en accumulant des compétences, de me sentir solide, quoi. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes partir, et j'en vois, et ils partent, ils sortent de l'école, ils sont à l'école, ils entreprennent, etc., ça suscite pour moi beaucoup d'admiration. Et puis, ils ont pas tort, ils font des bêtises, mais ils apprennent vite, il n'y a pas de raison. Certainement, quand je les vois, je me dis rétrospectivement, j'aurais pu m'offrir ce parcours-là aussi. Non, j'en avais, c'était pas, ça correspondait pas à ma personnalité, quoi.
Mon papa qui est entrepreneur, et enfin moi j'ai toujours voulu être entrepreneuse depuis que je suis toute petite, et il m'a dit, écoute, j'ai un conseil à te donner, c'est
tu apprends et tu fais les bêtises chez les autres et après tu es chez toi.
C'est un très bon, c'est un très bon conseil. C'est un peu ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Oui, j'ai fait beaucoup de bêtises avec l'argent des autres et c'est sûr que moi je pars du principe que l'expérience c'est la somme des erreurs qu'on commet et dont on tire des leçons. Et comme j'ai commis beaucoup, beaucoup d'erreurs et que j'aime pas recommencer deux fois, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Voilà. Pas besoin d'être doué. Il faut juste être assez méthodique en la matière.
Et donc, tu as passé 2 ans chez Accenture. Après, tu as continué chez Crédit Mutuel Arkéa.
Ouais.
Là, à partir de quand cette flamme de l'entrepreneuriat, elle est réapparue?
Alors, en fait, moi, je n'avais pas d'appétit particulier pour la banque. En fait, ce que je voulais, c'était... Moi, je suis breton, comme je te l'expliquais, j'ai grandi en Bretagne et j'ai encore plus pris conscience du bonheur que ça pouvait être. Quand j'ai commencé à bosser à Paris, à la Défense, tout ça, ça m'enchantait modérément de prendre le RER hein, tous les jours pour m'engouffrer là, dans cet antre inquiétante. Et du coup, j'avais envie de revenir en Bretagne. Et je me suis dit, c'est quoi la plus grande entreprise dont le centre de décision était en Bretagne? Parce que moi, je ne voulais pas qu'on m'envoie ensuite à je ne sais où. Et effectivement, à l'époque, c'était le Crédit Mutuel de Bretagne, qui est devenu Crédit Mutuel Arkéa. Et donc, je suis allé là-bas. Je ne connaissais rien à la banque. Je n'avais pas d'appétit particulier pour l'argent. Et puis, j'ai trouvé un groupe passionnant, entreprenant, intrapreneur, comme on dit aujourd'hui. Et donc je suis rentré, j'ai fait de l'organisation générale. Là aussi, j'ai appris tous les process de l'entreprise. Puis, je suis devenu patron du contrôle de gestion du groupe à 28 ans. Donc là, j'ai appris tous les chiffres. Je fais un peu les chiffres à la lettre quelque part, voilà, le qualitatif, le quantitatif. Donc là, déjà, je faisais souvent des business plans dans ma tête. Je continuais à avoir des projets de création d'entreprise régulièrement. Mais j'étais toujours dans cette stratégie d'accumulation de compétences qui commençait à devenir un peu plus étoffée à ce moment-là, puisque je commençais à bien comprendre comment on conduisait les projets, comment on organisait les processus, comment ensuite on pilotait une activité, comment on analysait la création de valeur, tout ça. Donc, ça commence à rentrer. Quoi. Même si on reste dans des registres fonctionnels, hein, le contrôle-gestion, l'organisation, ça reste fonctionnel, on n'est pas vraiment dans des lignes métiers. Mais toujours, j'avais des projets de création d'entreprise. Alors, ouais, je me souviens, j'avais une idée de créer un logiciel pour gérer des infrastructures juridiques des groupes. En de manière générale, je suis vraiment pas doué avec tout ce qui est physique, quoi, tout ce qui est matériel. Quoi. Je suis pas du tout un ingénieur. Si tu me demandes de réparer ta machine à laver, tu risques d'avoir des soucis. Voilà, donc, je t'invite à changer une ampoule, c'est à peu près correct. Mais donc, tant et si bien que mon appétit allait toujours dans des projets immatériels, quoi. Voilà. Pas toujours très glorieux, mais bon, parfois ça sert à quelque chose. Et du coup, oui, j'avais pas mal. Je me vois encore un été, pas prendre de vacances pendant 15 jours, 3 semaines, à appeler pour faire mon étude de marché sur mon idée de logiciel, je vais même commencer à le coder, etc. Donc ça me travaillait, ça me titillait effectivement régulièrement en parallèle cette envie d'entreprendre. Donc elle m'a jamais quitté véritablement, mais il y avait ce goût de la Bretagne, et puis cette peur d'entreprendre aussi, cette peur de... Je constitue une famille, je commence à avoir des enfants... J'avais pas d'argent.
T'as combien d'enfants?
J'ai 2 enfants, hein, Maria et Théo. J'avais peur de mettre en péril ma famille. Et puis, on pouvait pas lever de fonds comme ça, comme aujourd'hui, sur notre bonne tête, là. Et donc, je guettais l'opportunité pour entreprendre. Elle est née, pour répondre à ta question, cette opportunité est née. C'était quand en 1999, quand je disais que c'est un groupe qui était assez entreprenant, c'était le premier groupe à avoir fait de la banque en ligne, banque par Internet, banque par Minitel, alors je ne sais plus, en 95-96, puis de la banque, je ne sais plus, même avant, et puis de la banque en ligne avec Internet, la bourse en ligne, bien avant même les self-trade ou les Boursorama dont on parle aujourd'hui. Et alors que j'étais contrôleur de gestion du groupe, j'ai échangé avec, à l'époque, le numéro 2 du groupe qui s'appelle Louis Echelard. En disant, nous, on a ce savoir-faire là, mais on l'utilise que pour nos clients en Bretagne, c'est sympa, mais est-ce qu'on pourrait pas créer une marque pour utiliser ce savoir-faire là pour acquérir des clients en dehors de notre territoire historique et lancer une marque de zéro. C'était à l'époque, il y avait plein de courtiers en ligne. Je crois que quand j'ai fini par le lancer, on était 50 sur le marché. Autant dire, je n'étais pas très innovant dans mon idée. Mais pour autant, il se passait des choses sur ce marché-là, puisque la bourse avant, c'était pas transparent, c'était lent, c'était cher, tandis que là, avec Internet, c'était transparent. Vous voyez son ordre de bourse arriver sur le marché, c'était moins cher, et puis c'était dans quelques secondes. Donc, il y avait un vrai service plus à apporter aux clients, et ça, c'est gratifiant de voir qu'on peut aider les gens dans leur vie du quotidien, quand bien même il s'agisse d'ordre de bourse. Et donc, il m'a aidé à convaincre la direction, et donc j'ai quelque part... présenter un deck investisseur, comme on dirait aujourd'hui, un business plan, mais en interne. Et j'avais 32 ans, et on a dû me faire un chèque de 15 millions d'euros sur ma bonne tête, ce que jamais j'aurais obtenu sur le marché. Parce que
la bonne tête est peut-être aussi tout ce que tu avais fait précédemment.
Ouais, sûrement, oui. Mais puis, oui, mais en tout cas, j'avais quelqu'un qui, Louis Schlein, en l'occurrence, qui m'a fait confiance, et l'adage de ton père s'est complètement appliqué. J'ai pu faire des bêtises avec l'argent des hommes parce que quand tu démarres comme ça, moi j'ai créé une marque de zéro, ça s'appelait Symphonis, de création de bourse d'or de bourse en ligne, monter des équipes, faire le dossier d'agrément pour la Banque de France. Donc, et puis je me suis lancé, donc j'ai quitté mon job là, en février 2000, et puis en septembre 2000, c'était le crack boursier, quoi. Et puis après 2001, les tours jumelles, donc j'ai vécu deux années catastrophiques en termes boursiers, c'était une catastrophe.
Parce que du coup, à la base, donc Symphonis, qui est devenu Fortuneo après...
Qui est devenu Fortuneo.
Symphonis, au début, c'était exclusivement des ordres boursiers.
Oui, bourse en ligne. C'était la grande mode de la bourse en ligne. C'était les Cortal, les consorts, tout ça. Et parce que je t'expliquais le pourquoi. En fait, il y avait une rupture technologique qui permettait d'apporter une vraie rupture en termes de service client. Quoi. Moins cher, plus vite. Quoi. Et mieux. Et ça, c'est fun. Moi, j'aime bien ces moments où tu peux utiliser la techno pour vraiment changer les règles du jeu et apporter un vrai plus pour la clientèle finale. Et donc, je suis arrivé tard sur le marché, mais j'ai essayé d'exécuter correctement la chose. Je me suis segmenté, visé certains segments. Et ça s'est correctement passé. On a dû prendre entre 4 ans, 4-5% du marché, mais c'était pas monstrueux. Et puis, j'ai lancé le contrat d'assurance vie, Symphonis Vie, pour le coup. Donc, pour souscrire l'assurance vie, c'est le premier placement des Français. Et là aussi, en faisant 0% de droits d'entrée, où les droits d'entrée étaient à 4-5%, en offrant des fonds de très bonne qualité, tu peux acheter du Rothschild, du ce que tu veux. Et en faisant des arbitrages et acheter tous les quotidiens. Donc, la même chose, finalement, que la bourse en ligne, je l'appliquais à l'assurance vie. Là, c'était très innovant, pour le coup, parce qu'il n'y avait pas vraiment l'équivalent. Et ça a mis du temps à se faire connaître, mais c'est devenu, et c'est toujours le contrat le plus vendu sur Internet en assurance. Donc ça a été vraiment une belle expérience, et puis un beau projet où tu vois la difficulté. Je passais tous les deux, c'était à Brest, et j'ai créé tous ces emplois à Brest, mais je me passais mes semaines à Paris pour aller voir les journalistes, convaincre tout le monde que c'était une super idée. Au début, tu étais un peu dans le désert. Et puis quand tu vois commencer des concurrents qui commencent un peu à te copier, donc ben, ils évangélisent le marché avec toi, et ça a vraiment bien décollé. Donc, ça,
un vrai sujet, la copie. On dit souvent qu'il n'y a que les meilleurs qui sont copiés, mais quand tu es copié au moment donné, ça fait toujours un peu grincer les dents.
Un conseil que je donne parfois, des fois je reçois très souvent des entrepreneurs, et puis certains disent « moi j'ai trouvé un truc super, je suis le seul à le faire, c'est extraordinaire ». Et donc, parfois on se trompe, il faut avoir l'humilité de penser que si on a trouvé un truc que personne n'a jamais vu parfois, c'est peut-être qu'on a des illusions. Et parfois c'est vrai, mais il ne s'agit pas d'être quand on est seul, il faut faire connaître l'innovation. Et être seul, il y a besoin d'évangéliser le marché, ça coûte cher. Et donc, quand on est copié, ben, déjà on est plusieurs à parler. Un journaliste, quand il parle de vous tout seul sur votre secteur, il n'aime pas faire un papier que sur une personne. Tandis que si on est plusieurs, on va pouvoir comparer les uns les autres, et c'est plus confortable. Et puis l'autre point aussi, c'est qu'on préfère toujours l'original à la copie. Donc, in fine, quand on a été pionnier et qu'on se fait copier, tout le monde se souvient qu'il a été pionnier. Et ça, je l'ai vraiment vécu. Après, il y a une troisième phase où il y a une banalisation de l'offre qui s'opère. Et là, il faut à nouveau innover, parce que sinon, après... Il n'y a plus qu'une personne qui gagne de l'argent, c'est Google, parce qu'on fait tous de la pub avec le même message, et du coup un système d'enchères qui fait que les retours sur investissement ils s'exposent. Mais non, c'est une bonne chose d'être copié fondamentalement. Et après, on entre dans une autre ère de l'innovation où il faut se distinguer par d'autres facteurs que l'innovation pure produit ou continuer à innover. Travailler les services, travailler les segmentations, pour en parler longtemps.
et je trouve qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels je voulais revenir par rapport à ce que tu disais. Il y a le fait que C'est assez rare d'avoir... Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas avec toute la période qu'on vit, avec ces confinements et compagnie, où finalement, les gens se disent, bah, vivre à Paris, c'est plus une fin en soi, surtout quand on veut avoir une belle carrière. Enfin, à l'époque, ça devait être quand même assez rare de se dire, je choisis mon job par rapport à la situation géographique.
Ah, complètement. Tous les copains de promo, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Non. Et quand j'ai créé le Symfony, c'était le seul courtier en ligne qui n'était pas parisien. Sur les 50, il y en avait un qui était à Lille aussi, Dubus. Mais il y avait 50 courtiers en ligne, il y en avait deux qui n'étaient pas à Paris. Quoi. Ah non, c'était galère. Et puis, ce n'était pas la mode. Et j'ai toujours, moi, ça a toujours été une grosse motivation pour moi, créer des emplois en Bretagne. Donc, ouais, toujours, très tôt. Et parce qu'effectivement... Ben, c'est pas naturel, les centres de décision, ils ont très vite tendance à aller à Paris, avec parfois des sentiments de supériorité qui peuvent s'accompagner. Or, je me rends compte qu'il y a plein de cerveaux, il y a des gens qui font de très bonnes études, partout en France d'ailleurs, je suis pas chauvin, mais j'aime bien cette idée qu'on puisse entreprendre là où on est. Et l'Internet a cette chance-là, que ben, j'ai pu, moi, mes salariés, ils étaient au téléphone, 97% de mes clients n'étaient pas bretons, mais 100% de mes emplois étaient bretons. Et ça, j'aime bien. Souvent, j'ai fait ce coup-là, ouais. J'aime bien ça.
Mais je pense enfin c'est encore un vrai sujet hein, sur l'éducation, de se dire mais attends, si je quitte Paris, je quitte le centre de la France magique, et donc du coup moi je sais que je suis parisienne, j'ai vécu à Marseille, j'ai eu mes enfants à Marseille, on est reparti à Paris et là on vient de revenir à Marseille, et mes enfants quand je les ai eus à Paris, enfin mon premier en tout cas, toutes mes copines me disent, enfin pas mes copines, pas toutes, mais un certain nombre me disaient, mais du coup tu vas accoucher où? Bah, je savais, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'il y a des maternités à Marseille. C'est un truc de fou. Et mes enfants nous auront la carte d'identité de leur carte d'identité avec écrit Marseille dessus. Mais c'était vraiment, c'est une question que j'ai eu plusieurs fois. Et tu te dis, alors,
Non, ça, j'en ai souffert combien de fois, effectivement. Mais des fois, je venais, quand j'allais à Brest, Paris, je me dis, mais. Parisien. Ah, vous venez de Brest? Ah oui, ça. Ah oui, l'heure de dire, j'ai l'impression que je viens du Far West, que j'ai fait juste 3 heures en carrosse. Non, mais parfois, il y a de la condescendance, parfois de la compréhension. Mais c'est certain que c'est facile à Paris. Il y a les décideurs, les partenaires, les journalistes, il y a un microcosme, dont j'ai appris à maîtriser les codes, bien sûr, que je sais faire. Mais pour autant, oui, moi, je revendique le fait qu'on puisse avoir vivre et travailler au pays, quoi. Et voilà. Et c'est aussi par les entreprises, c'est à nous, entrepreneurs de nos régions, de nous bouger pour prendre des initiatives. Et parfois, on se met des barrières dans nos têtes, mais si on se débrouille, c'est facile. Moi, j'ai souvent entrepris, j'ai créé beaucoup d'emplois en Bretagne et ça s'est fait, quoi. C'est moins facile, peut-être, mais à l'inverse aussi, on trouve des talents qui sont plus fiables, en tout cas, moins de turnover. Ouais, plus fidèles. Moi, j'ai toujours observé, en tout cas, que factuellement, j'ai moins de turnover. Il y a des gens qui sont de très bon niveau et que parce qu'ils ont envie de trouver un boulot, ils s'investissent aussi, parce que si on est à la pointe bretonne et qu'on n'est pas bon, de toute façon notre avenir il tient que à ce que notre boîte soit performante, hein, puisqu'on ne peut pas surfer, hein, si jamais vous cassez les gueules, faut pas se dire je vais me refaire chez le voisin qui ne me connaîtra pas, donc je pourrais raconter une nouvelle histoire. Non, si en plus vous faites des crasses, tout le monde va le savoir. Donc on fait pas de crasse et puis on se dit que notre avenir c'est pas en rebondissant et en surfant de job en job qu'on va le traiter. Voilà. On fait face à la difficulté, ça ne veut pas dire qu'on fait toujours tout bien, mais on est déterminé en tout cas.
Et quand tu as été voir du coup ton patron et que tu lui as demandé 15 millions, quand ça s'est fini, tu avais quel statut du coup en créant Symfony?
C'était pas la mode du tout d'être associé à la création de valeur, donc j'ai bien tenté, mais c'était pas du tout. Et puis dans une boîte mutualiste, c'était pas le truc. Donc comme je dis, la boîte s'est très bien passée, la valorisation de l'entreprise, c'était pas patrimonialement, c'était une très bonne opération pour le groupe. Mais j'ai été riche de beaucoup d'expériences, mais pécuniairement, il n'y a pas eu d'accompagnement pécuniaire particulier.
Du coup,
j'étais salarié.
T'étais encore salarié du coup quand t'as créé ça?
Ah oui, j'étais salarié. Oui, voilà. Mais c'est ça aussi. C'est mon rapport à l'entrepreneuriat. Quand je disais que j'ai peur, j'ai pas confiance en moi, je suis pas très courageux. Si je l'étais vraiment super entrepreneur, je serais parti, j'aurais me sentais endetté, j'aurais galéré, etc. Que j'avais un salaire correct, voire confortable. Mais j'étais pas actionnaire. Voilà. Donc j'ai choisi. En fait, plus que d'être riche, entreprendre, c'est d'abord ma première volonté. Voilà. Et puis à l'inverse, je suis plutôt risk adverse, comme on dit en anglais, je suis adverse au risque. Donc, cette urgence absente. Ce n'était pas une obsession, en tout cas, ce n'était pas ma priorité. J'avais 32 ans, on me filait 15 millions d'euros pour créer un truc. Ouais, voilà, exactement. Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de mettre en péril. Je parlais de ma famille, et puis je n'avais pas d'argent, et donc m'endetter et me retrouver potentiellement en difficulté, ça me faisait peur.
Et donc, du coup, oui, tu avais, comme tu disais, pas de part, enfin, à l'époque,
façon. Ça se faisait pas en intrapreneuriat, ça se faisait pas. Si j'avais voulu prendre des parts, il fallait que je monte une société ailleurs, comme c'était pas dans l'esprit de ce groupe-là, ce que je respecte d'ailleurs. En tout cas,
Donc, tu es resté 5 ans, du coup,
Je suis resté 5 ans. Et puis, quand même, c'était cash positif, ça gagnait de l'argent. Et puis, je commençais un peu à m'ennuyer, parce que c'était à l'époque où je m'ennuyais assez vite, en fait. J'aimais bien changer et relever toujours des nouveaux défis. Voilà. Et donc, à l'époque, le groupe m'a demandé d'aller m'occuper d'une banque à Paris qui avait été achetée et qui ne s'occupait pas, qui avait besoin d'être redynamisé, la banque privée européenne. Et donc j'ai rendu cette mission-là pendant 2 ans. J'ai lancé une activité de gestion de patrimoine. Voilà. Et,
du coup, basé à Paris ?
C'était basé à Paris, donc j'étais à Paris la semaine. Donc ça, c'était moi qui aimais bien être en Bretagne. C'était vraiment sympa, mais c'était intéressant d'apprendre et puis aussi d'aider à ce que cette situation qui n'était pas économiquement très satisfaisante puisse être redressée. Donc c'était pas du tout la même histoire. C'était moins créatif. J'avoue que je me suis plutôt moins épanoui du côté de la créativité, mais j'ai appris. Voilà, c'est un peu comme en matière d'immobilier. Hein. Des fois, il y a le neuf et l'ancien. Quand on construit de zéro, on choisit ses équipes, on choisit son positionnement. Toutes les entreprises, mais nécessairement par ses valeurs, par ses hommes et ses femmes, vous ressemblent. Mais voilà, là, on hérite d'une situation, donc il faut savoir faire avec les gens en place. C'est un autre savoir-faire que j'ai développé, qui n'était pas natif, hein, parce que c'est la rencontre de... Un seul homme, une seule femme ne peut pas lutter contre une culture d'entreprise. Il ne s'agit pas de lutter, d'ailleurs. Chaque culture a ses atouts. Il s'agit de s'en imprégner et puis de prendre les forces pour orienter la société vers un modèle qui assure sa pérennité. C'est ce qui s'est passé pendant 2 ans. J'ai contribué à ça, quoi.
La créativité, tu disais qu'en terminale, c'était un vrai sujet, enfin, quand tu étais au lycée, que tu chantais, que tu avais vraiment ce besoin de créativité. Comment tu l'exprimes, du coup, comment tu l'exprimais à l'époque et comment tu l'exprimes aujourd'hui?
Ça, c'est un vrai sujet parce que j'ai beaucoup perdu en créativité. Dès lors que je suis rentré en prépa, j'avais beaucoup de créativité et c'est... À partir de ce moment-là, je suis passé beaucoup plus sur un autre mode, beaucoup plus d'efficacité, de carré, cartésien. Je laissais beaucoup moins place à l'intuition. Encore que en maths, des fois, c'est utile l'intuition, mais effectivement, et puis en plus, c'est accentué. Donc, j'ai pas mal de formatage qui m'ont donné des atouts professionnels indéniables, mais qui m'ont éloigné de tout ce champ-là artistique, on va dire, de sensibilité. Et ma créativité s'exprimait justement dans la création d'entreprise. Là, j'ai pu retrouver ça. Quand on fait un positionnement, quand on donne le corps, quand on crée des produits, là, c'était assez sympa d'écouter les clients, d'imaginer ça. J'aimais bien, j'ai toujours aimé cette phase-là. Mais ça m'a toujours beaucoup manqué. Ouais. Je ne m'en rendais pas vraiment compte. Mais ouais, c'est vrai que... Pour se couvrir d'efficacité, par exigence, l'exigence que je me mettais sur moi-même, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient fait confiance, donc j'avais envie d'être digne de leur confiance, faisait que j'avais un gros besoin de contrôler le résultat de ce que j'entreprenais. Et dès lors qu'on rentre dans un champ du contrôle, il y a moins de place à la sensibilité. Et parfois, ça a pu nuire à la qualité des relations humaines que j'ai nourries dans mon univers professionnel, parce que j'étais tellement guidé par l'envie de performance, de rester fidèle aux engagements que j'avais pris. Que cette sensibilité-là, elle était moins présente.
Et aujourd'hui, du coup, tu arrives à avoir de la créativité dans ta vie ?
Ah, beaucoup plus, oui. Ouais. Depuis quelques années, là, ça a beaucoup, beaucoup changé.
Et c'est quoi, du coup, tes phases de créativité ?
Il y en a plusieurs. La poésie, c'est par moments, en fait, dans ma vie. Il y a des moments de ma vie où je fais beaucoup de poésie, puis d'autres, beaucoup moins. Donc ça, c'est un mode un peu spontané de créativité chez moi, toujours, mais c'est par des phases de ma vie. Sinon, j'ai découvert il y a 3-4 ans la danse. La danse. Ouais. J'avais jamais dansé de ma vie et du coup, et en fait, j'aime beaucoup.
Quel type de danse?
C'est la danse des cinq rythmes, ça s'appelle. C'est une danse assez spontanée, on va dire, où on danse ses émotions. D'accord. Et il n'y a aucun pas, il n'y a rien. Il faut juste se laisser porter par les émotions de la,
génial,
de la musique. Et donc c'est des cinq rythmes, c'est des vagues avec des rythmes lents, puis qui vont de plus en plus vite et puis qui redescendent. On est plusieurs dans la salle. Voilà. Et donc ça, c'est une expression, mais. Ouais, je m'intéresse aussi de manière générale au corps, aussi être plus présent dans mon corps, et le toucher, et la respiration. Mais c'est pas forcément propre à la créativité, même si ça y participe. C'est plus l'idée de la conscience, en fait, que j'essaie de développer, mettre de la conscience dans le quotidien. Parce que quand on est entrepreneur, et quand on est dans la performance, et quand on est dans les objectifs à atteindre, etc., on peut fermer pas mal les écoutilles de la conscience pour rentrer en mode efficacité, comme je le disais
tout à l'heure.
Ça, c'est... Ouais, machine. Moi, je m'appelle Robocop dans ces cas-là. Je passe en mode Robocop. C'est pas très glorieux.
Et depuis quand, du coup, tu as cette conscience, cette conscience du fait qu'il faut prendre conscience de tout ça?
En fait, ça s'est développé... Moi, j'ai la dernière boîte que j'ai dirigée, ça c'est le compte Nickel, c'est de 2016 à 2019. Et au bout d'un an de compte Nickel, ça a été très intense, très très intense. Et j'étais fatigué, je crois. Et puis, il y a eu un moment où j'ai envie de. J'étais burn out, pas forcément, mais pas loin quand même. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, là, je vais arrêter d'être. J'ai commencé à me dire, j'avais la perspective d'arrêter d'être patron, parce que ça faisait 18 ans, mais je m'étais engagé à faire encore 2 ans, et puis je l'ai bien fait, complètement fait. Hein. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire que. À m'autoriser à lâcher plus. Et donc, mon style de management a changé, j'étais plus délégué, beaucoup plus dans la délégation. Non pas que je n'ai pas délégué, hein, mais avec un niveau de contrôle qui était différent. Et une exigence aussi sur moi-même, peut-être, et sur les autres différentes, sans renier les objectifs. Et d'ailleurs, les objectifs sont plutôt bien. Ça s'est bien passé pour autant. C'est intéressant aussi. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir à différentes choses. J'ai un très bon ami, qui s'appelle Abraham, qui est entrepreneur aussi, et qui est parti, qui a créé un écolieu dans les Cévennes, où il découvre toutes sortes de pratiques de respiration, de méditation, de chant, de danse, etc. Et Abraham m'a suggéré deux, trois pistes à explorer qui m'ont fait du bien, qui m'ont donné envie d'aller encore plus loin dans cette direction. Voilà. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que véritablement, alors non pas, je ne veux pas non plus tresser de moi un portrait d'un homme exclusivement froid, on s'en fout, mais je dirais que cette part de sensibilité ou de créativité, de présence au corps et aux autres aussi encore, c'est développé en tout cas.
Ouais. Et du coup, ton corps à toi, il te parlait comment? Parce qu'à chaque personne, le corps lui envoie des signaux d'une façon différente.
À cette époque-là, justement, après cette année très intense là, chez Nickel, j'ai commencé en début de pulser à l'estomac. Alors, mon corps a toujours été un fidèle compagnon que je ne lui rendais pas. D'ailleurs, je ne lui rendais pas. Je ne récompensais pas cette fidélité parce que j'en prenais pas grand soin. Je vivais plus comme une commodité. Et effectivement, au bout d'un an, là, je vois un début d'ulcère à l'estomac. Et ça, j'ai toujours été assez anxieuse, stressée, préoccupée, ben, toujours pareil, de bien faire, et donc en mettant la pression à moi-même. Et là, il commençait à fatiguer. Et ce signal-là du corps m'a aussi invité à lever le pied et à prendre distance par rapport aux choses et me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être dur comme ça avec moi, quoi. Je peux juste mériter l'amour. Quoi que je fasse, qui que je sois, voilà.
Et comment elle le vit, ta femme, quand tu es en mode Robocop et tes enfants?
Alors, je ne suis plus marié et je vis... Ma compagne parce que j'ai changé récemment de trampoline. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est la question de... On va parler de la femme qui vit avec moi quand elle me voit être en Robocop. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ça la question?
Ouais.
Redescend, mais je le suis de moins en moins, en fait.
De redescendre ou d'être en bord de Robocop?
Robocop, de moins en moins. Ouais. Mais ça, récemment, j'ai repris un projet où ça m'arrivait parfois de remonter dans les tours, quoi. Et on a pu m'inviter juste à dire, allez, ça va le faire, quoi. Mais je donne aussi les clés aux autres en disant, parfois, si je me mets en situation où avec des forts enjeux, je peux, la tâche me paraît tellement importante que je vais me focusser beaucoup sur la tâche et moins dans la relation. Et donc, j'ai pu prendre la précaution de prévenir les gens, des fois, ça n'a rien fait. Il ne faut pas hésiter à me dire, c'est bon, ça va le faire.
Ça, mine de rien, la communication, bon, de toute façon, on le dit toujours, hein, que ça soit dans la vie de couple, mais dans la vie, dans toute situation, on ne communique pas assez. Et communiquer, ça permet justement de lever d'anticiper des situations compliquées. Quand tu disais aux personnes, écoutez, là, je rentre en mode Robocop, comment ils réagissaient?
J'ai pu les prévenir déjà que je l'étais. Et puis, à propos de communication, je me suis aussi beaucoup passionné ces derniers temps pour la communication non violente.
Ouais.
Et déjà, ça permet de c'est une reconnexion à ses propres émotions, fondamentalement. Et donc, ça évite ça. Parce que si on est connecté à ses émotions, on peut juste se mettre aussi en vulnérabilité vis-à-vis de l'autre en disant, voilà, là, j'ai peur de ne pas réussir tel objectif. Mais voilà, j'ai besoin de respecter les engagements que j'ai pris vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?
Ça, c'est quelque chose que tu arrives à partager, le fait de dire le partage de la vulnérabilité?
Ah oui, bah, beaucoup plus, toujours pareil depuis quelques temps, ouais. Depuis la même période, là, ouais. Beaucoup plus. Ouais. Et assez paradoxalement, par rapport au style du manager parfait, manager des années 80, Bernard Tapie, le gars ou la fille super forte, qui a réponse à tout, qui sait tout, et qui va me suivre, et de leader fou. Non, je pense que je mesure à quel point exprimer ma vulnérabilité a renforcé mon leadership, paradoxalement. Ouais.
Ça, c'est quelque chose, la vulnérabilité. Moi, je me rappelle quand je te racontais avant qu'on enregistre, donc j'ai fait un burn-out quand j'étais à l'époque VP marketing chez un éditeur de logiciels français. Et en fait, le burn-out, j'ai commencé à me rendre compte que je partais en cacahuète, que j'ai fait un malaise d'une violence assez extrême. C'était pendant le week-end, et 2-3 jours après, on avait un séminaire avec le CODIR. Et donc, j'ai dit que ça allait pas, qu'il fallait que je relâche un peu, enfin que je ralentisse, parce que c'est ce que le médecin m'avait demandé. Oui, le médecin voulait m'arrêter, mais évidemment j'avais dit non, c'est pas possible, vous comprenez, on est en pleine levée de fonds, tout ça, pas, c'est la fin du quarter, c'est pas possible. Et tu vois, donc j'avais partagé ma vulnérabilité en disant, j'avais même fondu en larmes à ce moment-là, parce que j'étais vraiment, j'étais à bout, quoi. Et c'est assez intéressant de voir comment chacun réagit par rapport à ça. En fait, il y a des gens que ça met très mal à l'aise, il y en a d'autres qui vont être dans la compréhension. Mais aujourd'hui, tu vois, on en parlait avec Heidi Sevestre, qui est glaciologue, donc docteur des glaciers. Et elle racontait qu'elle, dans son métier, quand tu es en expédition sur un glacier, c'est essentiel de partager sa vulnérabilité, parce qu'en fait, tu as des risques de mort si t'as trop froid. Et elle disait, mais aujourd'hui, dans l'entreprise, et même dans la vie tout court, partager sa vulnérabilité, c'est encore vu comme quelque chose de négatif, en fait.
Ah oui, je crois que c'est après chacun, tu l'as décrit, hein, chacun réagit à partir de là où il en est, mais d'une manière générale, c'est partager ses émotions. Tes émotions, elles sont là, elles ne vont pas les nier, et tes besoins, ils sont là. Donc après, comment l'autre il interagit par rapport à ça, c'est aussi sa part de responsabilité dans la relation. Mais le partir du principe qu'on ne t'enlèvera jamais ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. De se dire c'est là, donc soit tu le caches, mais de le cacher, ça sert à rien, parce que ça finit toujours par ressortir et pas toujours par des formes plus maîtrisées.
Ça, donc, du coup, c'est quelque chose dont tu parles avec, parce qu'aujourd'hui tu es advisor d'un certain nombre d'entreprises, c'est quelque chose dont tu parles avec, avec les managers?
Bien sûr, c'est vrai que je fais partager ça, ces découvertes-là que j'ai récemment. Oui, bien sûr, on a et après, il n'y a pas d'attente à avoir sur la réaction de l'autre.
Non.
Après, toi, tu dis, je ressens ça, j'ai tel besoin. Hein. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, tu fais quoi? Et puis, ça va te faire des demandes aussi. Hein. Et dans la relation managériale, oui, bien sûr. Singulièrement, en fait, il y a beaucoup, je me rends compte, en management, et c'est beaucoup des sujets que je traite, en fait, quand je conseille des dirigeants. La question de la relation au collaborateur direct. Parce que bon, je suis surpris parfois d'observer que dans des entreprises, il y a les fameux entretiens d'appréciation annuels.
Ouais.
Et souvent, au top management, ils ne se le font pas, les entretiens d'appréciation entre eux. On peut les critiquer, ces entretiens d'appréciation, avec tout ce qu'ils ont de scolaire, ou de bonnes notes, mauvaises notes. Bon, mais si c'est fait dans le bon esprit, cette affaire-là, c'est passionnant, parce que c'est un espace de dialogue, de partage, et on enlève la poussière sous le tapis, mais c'est parti du jugement. Ça, c'est, par contre, ça, c'est parfois un côté un peu jugement là-dedans. Mais je vois souvent qu'on esquive ce moment de rencontre au prétexte qu'il y aurait un grand chef et qu'on est tous chefs. Ben oui, mais on est chefs, on est des hommes et des femmes, on a besoin d'interagir, de partager ce qu'on vit ensemble. Et pas que dans un entretien annuel, d'ailleurs, régulièrement. Et on s'exonère parfois de cet exercice-là. Et au contraire, je pense que c'est une occasion d'exprimer ce qu'on ressent. Et beaucoup, il y a des incompréhensions qui naissent, des frustrations, parce qu'ils n'osent pas se dire créer les espaces où on puisse le dire, mais de manière non-violente, où on dit, voilà, moi je suis surpris, moi je suis en colère, ou moi je suis triste, ok. Mais pas avoir l'ambition d'avoir du pouvoir sur l'autre, en disant, voilà. Mais au contraire, en disant, moi mon besoin, c'est de sécuriser l'atteinte de cet objectif. Parce que moi, j'aime bien respecter les engagements que j'ai pris. J'ai besoin de ça, c'est fort chez moi. Voilà. Et en même temps, je veux te créer un espace propice à ta créativité, donc qu'est-ce que tu me proposes par rapport à ça? Et aussi, souvent, la question se pose de la séparation aussi dans les entreprises. Et parfois, parce que c'est un moment douloureux, on va le traiter de manière potentiellement violente. Parce qu'on sait où on en dit, soit on fuit le truc et puis on laisse la DRH dans un coin, j'ai rien à faire, ou on s'agresse parce qu'on se sent obligé de se mettre se taper dessus parce qu'on n'a plus envie de bosser ensemble. Mais non, moi je milite pour qu'on ait une voie où on puisse se séparer en continuant à regarder les gens dans les yeux.
Ouais.
Parce que ça fait partie de la vie, quoi.
Le monde est petit, on se retrouve toujours. Hein, donc,
Ouais, et puis on pourrait nous être de l'autre côté du bureau, hein, je veux dire. À un moment, on peut être aussi soi, en inadéquation avec les attentes qu'a quelqu'un d'autre en face. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est pas remettre en cause l'autre en tant qu'individu, surtout pas, je veux dire, parce que c'est blessant d'entendre une volonté de rupture. Et donc, de bien distinguer la relation, le respect de l'individu, y compris la reconnaissance de ce à quoi il a pu contribuer, parce que c'est fréquent dans les startups que dans la phase d'initialisation, des gens se fassent un super boulot, mais que dans la phase, deuxième phase, ben, ils soient moins adaptés, ils s'y retrouvent moins. Et ils le savent de toute façon.
C'est un vrai point, en effet, avec la croissance et tout. C'est pas forcément la bonne personne à chaque moment de l'entreprise.
Ah ouais.
Et il y a peu de gens qui l'assument ou qui le comprennent, malheureusement.
Ah oui, ça c'est déterminant. Parce que moi, effectivement, j'ai dû diriger 7 entreprises en 20 ans et souvent des entreprises de croissance. Et du coup, depuis 2 ans là, que j'accompagne des entrepreneurs dans ces configurations-là, je mesure à quel point la capacité à négocier cette phase-là, elle est déterminante. C'est ce qu'on appelle la phase de scaling, de scale-up, de grosse, on appelle ça comme on veut. Tu dis que c'est en anglais, ça devient vachement plus chic. De croissance, de deuxième étape de croissance de la société, pour parler français, où on passe de 50 personnes à 300 personnes. Voilà. C'est ce que j'ai fait chez Grand Nickel en 3 ans. Et de savoir reconfigurer l'entreprise sans qu'elle perde son ADN. C'est ça, c'est l'alchimie magique. Ça, c'est vraiment le sujet. Je pourrais en faire un podcast entier. mais pour ce qui relève de ta question, la relation interpersonnelle, singulièrement avec des fondateurs, des cofondateurs, qui sont des copains ou des copines, et à qui il faut savoir dire, en tant que patron... aujourd'hui, et c'est pas une découverte, c'est-à-dire faut pas que la personne quand on va lui annoncer tombe de la chaise. C'est faut aussi qu'on ait préparé le terrain, qu'on ait dit les choses. Et cette faculté à dire les choses de manière non violente, elle est vraiment déterminante. Et moi, je sais que c'est des moments où j'aime bien j'aime bien accompagner, quoi. Ouais. Parce que pour le bien de l'entreprise, pour le manager, parce que bien souvent, notamment des jeunes entrepreneurs, ils n'ont pas eu l'occasion de manager avant. Donc, ils découvrent le management sur le tas, ils ont souvent des belles prédispositions, mais on ne leur a pas plus expliqué comment gérer ce genre d'affaires, quoi.
Clairement, et puis aussi potentiellement, enfin tu vois, moi je vois notamment dans deux des dernières boîtes où j'ai travaillé quand j'étais directrice marketing, il y en avait deux, ils n'avaient jamais travaillé. En fait, en gros, ils ont monté leur boîte
en sortant d'école.
Ils n'avaient du coup jamais été managés eux-mêmes. Donc il y en a un, il avait 32 ans, donc ça faisait quelques. Enfin, voilà, il était entrepreneur depuis 4-5 ans. Et l'autre, la boîte avait 18 ans. Et il était là depuis 18 ans. Et en fait, ça, clairement, hein, on disait, bon, tu fais les erreurs chez les autres, mais aussi, tu apprends à regarder, à devenir un manager, de t'inspirer des managers que tu auras eu pour te dire, OK, ça, j'ai envie de faire comme eux, ou ça, j'ai pas du tout envie de faire comme eux.
Ouais, bien sûr. C'est vrai que d'avoir eu la chance, moi, j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle d'avoir de très bons managers quand j'étais jeune, qui ont été très inspirants pour moi. Et effectivement, ça, c'est inspirant d'avoir des exemples concrets. Et ce que tu décris, alors, dans ce que tu décris, il y a aussi j'ai vu des cas où Maria de Blanoir, qui est fondateur de Nickel, à un moment, il a dit, j'étais bon pour amener la boîte jusqu'à telle taille, mais à un moment, c'est plus à moi, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé pour prendre la deuxième étape, la direction de Nickel. Ouais. Il a amené jusqu'à 60 personnes et moi, je l'ai amené de 60 à 300. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est quand il y a les fondateurs qui savent faire ça. Waouh! Parce que là, ça suppose de prendre conscience de ses propres limites, le regard des autres sur soi, parce que le statut de patron, c'est un statut très sexy, socialement. Moi, qui ne suis plus patron depuis 2 ans, hein, j'ai le statut d'ex-patron. Voilà.
Mais c'est pas, tu sens qu'il y a le regard des autres, du coup, a évolué sur toi ?
Oui et non, ça dépend des personnes. Mais ça, la société en général, quand tu es patron, tu représentes quelque chose, tu as une position sociale, tu es consultant. Mais moi, personnellement, ça me va très bien. Et j'assume pleinement ce choix que j'ai fait. Mais c'est sûr que c'est pas la même histoire. Donc, de se dire, je quitte le statut patron, surtout pour un entrepreneur, un entrepreneur pas trop âgé, et ben c'est pas facile. Mais j'en ai vu qui l'ont fait, et puis ils se disent, voilà, je sors, et puis je me remonterai parce que la phase qui me plaît, c'est cette phase-là. Voilà, bon, bah, très bien. Et ils s'assument, et ils savent où ils sont bons, et c'est top. Mais il faut se départir de. Il ne faut pas chercher en tout cas sa sécurité intérieure dans le regard des autres. Il y a un moment dans la vie, on commence à comprendre ça. Donc, moi, je ne l'ai pas complètement compris, mais intellectuellement, assez souvent, ça commence à venir.
Et tu as créé aussi, tu as cofondé une autre entreprise qui est A comme Assure.
C'était ma deuxième. Je passe sous silence ma création quand j'étais à l'école, mais voilà, j'ai créé Symphonis et puis j'ai recréé A comme Assure. Après, j'ai dirigé une compagnie d'assurance vie. Et puis après, j'ai revoulu créer une boîte, encore en Bretagne, A comme Assure de vente en ligne d'assurance. Donc c'était en 2010, ça. Donc j'ai quitté ma place confortable de patron de compagnie d'assurance vie. Ça marchait bien, c'est gagné bien d'argent, etc. Mais j'avais envie la créativité n'était pas trop au rendez-vous. Et puis j'avais envie de ça me retitillait. Donc là, c'est toujours Louis Schler, d'ailleurs, qui était devenu patron du groupe Ouest France, qui m'a fait confiance et qui a investi avec son groupe des sommes dans cette création d'entreprise-là.
Là, j'ai quitté. Donc là, tu étais entrepreneur, là, pour le coup.
J'étais plus entrepreneur déjà, effectivement.
Et là, t'étais, du coup, tu avais le statut de gérant de société ou t'étais...
Ouais, j'avais toujours le statut de gérant de société, en fait. Le statut de gérant est distinct du statut d'actionnaire. Hein. Quand j'étais patron de Symphonie, j'étais mandataire social, comme on dit.
D'accord.
Et là, j'étais aussi mandataire social. J'ai toujours été mandataire social de boîte que je dirigeais.
OK.
Mais après, tu as le statut d'actionnaire. Donc là, j'étais actionnaire un petit peu de cette société-là. Mais là aussi, j'avais trouvé un modus operandi qui me permettait de ne pas me mettre trop en risque j'avais un couple rendement risque, comme on dit, qui était plus à risque modéré pour un rendement mécaniquement modéré. Et puis là, donc, j'ai créé ça. Ça doit être, c'est une manière, ils sont 150 à Brest, toi, Mathieu. C'est une belle boutique. Et donc, j'ai créé ça pendant 5 ans, mais c'est un marché difficile, la vente en ligne d'assurance. Je m'étais dit, comme j'avais réussi à bien réussir la vente en ligne d'assurance vie, je me suis dit, je vais réussir sur l'assurance auto-habitation. Je ne connaissais pas ce secteur, donc j'ai appris, j'aime bien apprendre. Et ça c'est au début, je n'ai pas eu trop de succès sur un produit d'assurance de prêt. Et puis après, ça commence à mieux marcher sur l'assurance auto-habitation santé, sans que ça s'est explosé. Ça, c'est une belle boutique, mais ça n'a pas été. c'est pas une licorne, comme on dit, quoi que ce soit pas une fin en soi. Mais c'était une belle aventure, j'ai appris plein de choses, j'ai essayé, j'ai appris pas mal dans le domaine du commerce. Je me suis passionné pour la vente au téléphone, c'était chouette. Et puis une belle aventure humaine aussi, de reprendre goût à la création d'entreprise. Puis à un moment, le sentiment aussi de passer, 4-5 ans, j'avais fait un peu le tour, quand un fonds d'investissement est venu me chercher pour diriger Nickel, je me suis dit, j'ai essayé de travailler le modèle sous différents angles, pour savoir laisser à d'autres le soin de continuer l'aventure. Et c'est ça qui est toujours frustrant quand on quitte une entreprise que, singulièrement qu'on a créée, c'est que c'est jamais fini, c'est jamais parfait. Et donc, il faut savoir partir aussi avec un goût d'inachevé. Mais voilà. Voilà un petit peu.
Et quand tu as créé cette entreprise-là, est-ce que tu as eu. C'était quoi tes peurs ou tes doutes?
Beaucoup moins qu'avant, parce qu'en fait, c'est là le phénomène de l'expérience. C'est que j'avais déjà fait plusieurs fois, j'avais acquis pas mal de. Je pouvais m'appuyer sur beaucoup de compétences. Et puis, je suis parti avec deux lieutenants à moi, là, Isabelle Haut et Basile Tréhanton, qui me faisaient déjà confiance depuis Symfonis. Donc, ça faisait déjà 10 ans qu'on bossait ensemble. Donc, l'un sur l'informatique et l'autre sur tout ce qui est opération. Et donc, on est arrivé, et ça, c'est intéressant, c'est quand on arrive avec qu'on l'a déjà fait, qu'on a l'expérience, donc c'était rassurant, quoi. Donc, il y a toujours des doutes, hein, fort heureusement. Et puis, ils étaient fondés d'ailleurs, à certains égards. Mais c'est ça le principe de l'expérience. C'est qu'on cumule. Je savais déjà la méthodologie employée pour acquérir des clients, pour mesurer ses écarts, parce que ça se passe jamais comme prévu dans le business plan. Pour autant, si on se dote bien des bons outils, on est en permanence capable de mesurer les écarts de là où ça déconne ou pas, et puis du coup, donner rapidement les coups d'ajustement, quoi. J'ai toujours été passionné par la donnée, quoi. J'aime bien piloter par les données.
Mais comme tu disais, la beauté des chiffres.
Alors, quand je parle de la beauté des maths, c'est pas forcément les chiffres.
Non, c'est pas celle-là. Non,
c'est une autre beauté. C'est la beauté des maths, c'est des belles démonstrations. Comment on pourrait expliquer ça, ouais. Souvent, c'est des démonstrations qui sont belles, des fois très astucieuses, parfois ludiques. Ça me plaît bien, ça. Ouais. Mais, je ne sais pas comment le dire.
Aujourd'hui,
bouge pas, j'ai peut-être EDF qui m'appelle.
D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es advisor pour plusieurs entreprises et tu t'es engagé dans la campagne électorale des régionales l'année dernière, cette année même d'ailleurs, avec Claire Desmarais-Poirier, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. Quelle a été du coup cette démarche pour toi de tout arrêter pour pouvoir t'engager auprès de Claire?
Bah déjà, effectivement, la démarche consistant à me mettre advisor, donc conseiller de société, c'était pas neutre. Donc, c'est le résultat d'une décision d'arrêter de faire patron, hein, comme je te l'avais indiqué. Et avec l'envie de transmettre en me disant, j'ai accumulé beaucoup d'erreurs et donc beaucoup d'expérience. J'avais envie de la transmettre et de la partager. J'ai toujours eu beaucoup de gens qui venaient me voir au moment de la création de leur entreprise, au moment du développement de leur entreprise, me donnaient un conseil par-ci par-là. Je me suis dit, je vais pouvoir en faire profiter pas mal de monde. Donc, je dois être au bord de cette société aujourd'hui, ou association parfois aussi d'ailleurs. Et donc déjà, cette posture-là, en soi, c'était un changement pour moi. Et puis avec l'envie de me laisser plus de temps, parce que je me suis souvent laissé déborder par le temps dans mon parcours, parce que je n'aimais pas forcément beaucoup le vide non plus. Donc, et ce temps-là, ne me laissait pas prendre le temps, ne pas prendre le temps notamment pour moi, mais pour la relation aux autres. Et donc, je voulais prendre plus de temps. Il s'est avéré que rapidement, j'ai eu plein de gens qui m'ont sollicité, donc je me suis retrouvé à quasiment travailler autant qu'avant.
Donc là, juste pour que tout le monde comprenne, donc quand tu es au board, t'es investisseur ou t'es pas investisseur du côté social?
Non, je suis jamais investisseur. Je sais pas faire. Je suis pas bon. Je me trouve pas bon investisseur.
Okay.
En revanche, moi, je suis donc au board. C'est un conseil d'administration. Parfois, ça s'appelle un comité stratégique dans les sociétés où on est 5-6 autour de la table et on accompagne le dirigeant qui nous fait part de ses projets stratégiques, déjà l'avancement général de sa société, les grandes options stratégiques qu'il se propose de prendre. Et à cet égard, on lui fait part de nos suggestions.
Et là, tu es rémunéré pour ça ?
En fait, je suis rémunéré pour ça. Et aussi, en complément, je consacre une journée par mois en général aux sociétés que j'accompagne. Et alors que ça ce soit en participation à board, préparation de ce board, mais aussi je les mets en relation avec d'autres personnes. Je fais aussi une prestation parfois de recruteur. Je les aide à trouver les bonnes personnes parce que c'est déterminant pour constituer les équipes de direction. Je les aide justement sur le management, comment on va gérer la sortie de telle personne, comment on va faire progresser telle personne, comment on organise l'organigramme, comment on le travaille, comment on travaille les responsabilités, la planification, et puis des choix marketing aussi, en disant voilà, comment on adresse ce marché. Et puis je les mets en relation avec des gens, parce que en ayant passé pas mal de temps, je connais pas mal de monde, en disant en fonction de ça, tiens, tu peux appeler un tel de ma part. Voilà. Donc c'est à ça que c'est la mise en relation, du partage d'expérience. Voilà, ça c'est mon job, et puis je le fais dans les sociétés, et puis je suis aussi au membre du conseil d'administration de la fondation ADI. Qui aide les entrepreneurs qui sont rejetés par le système bancaire traditionnel pour créer leur propre job. Ce sont des auto-entrepreneurs, c'est quelqu'un, une couturière qui a besoin d'une machine à coudre, donc on lui finance la machine à coudre. Okay. Quelqu'un qui a besoin. Voilà. Donc, ça, c'est, j'ai aussi quelques activités pro bono comme ça. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, donc ça, je l'ai fait pendant. De septembre 2019 jusqu'à. Je le fais toujours aujourd'hui, je ne l'ai jamais arrêté, mais je le faisais plus intensément jusqu'en novembre dernier. Effectivement, en octobre dernier, j'ai rencontré Claire Desmarpaurier par hasard, parce que j'avais lu son bouquin sur l'exode urbain, je l'avais trouvé très bien. Elle habite en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, comme moi. Du coup, je suis allé lui faire dédicacer deux bouquins que je voulais offrir. Et dans son café librairie, et c'est à l'occasion de cette rencontre qu'elle m'annonce qu'elle se présente comme tête de liste aux élections régionales en Bretagne. Et moi, ça faisait déjà quelques temps que j'avais de plus en plus conscience des enjeux écologiques. C'est-à-dire au moment où je me suis un peu arrêté de faire patron, j'ai un peu levé la tête, j'ai lu pas mal, j'ai fait un tour du monde de 4 mois. Et en voyant tout ça, je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet quoi, sur cette question écologique. C'était un sujet primordial, de premier ordre. Et progressivement, j'ai voulu mettre mon énergie de plus en plus au service de projets comme cela. Et ces derniers temps, d'ailleurs, je ne rentre plus que des sociétés qui, en tant que conseiller, qui ont un impact quoi, sur cette question déterminante du réchauffement climatique. Et donc, je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider quoi. Et ben, elle me dit, je crée une équipe pour la campagne en conséquence. Je lui dis, moi, j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais je peux aider, je sais monter des équipes, donc je peux aider à recruter une équipe. Et j'ai rapidement mis en relation avec différentes personnes que je connaissais pour vraiment prendre des spécialistes de l'informatique. Beaucoup dans les startups, des gens qui partageaient cette conviction qu'il y a un enjeu déterminant autour de l'écologie, mais pas politisé, mais très compétents dans la promotion des idées, singulièrement numériques, singulièrement par temps de Covid. Ou pour faire passer nos idées, le numérique est un canal privilégié. J'ai pris des gens du marketing digital, de la communication, des relations publiques, de l'informatique. J'ai monté l'équipe, mais il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de manager. Et puis, plus le temps passait, plus j'étais impressionné par les qualités de Claire. Et je me suis dit, bon, j'ai eu la chance que ça se passe bien dans ma vie professionnelle. Allez, je vais donner un peu plus de 6 mois de mon temps à cette question-là, moi qui n'avais jamais fait de politique. Et c'est ma façon, moi, de contribuer sur les sujets climatiques. Voilà, ce que je sais faire, c'est être patron. Alors, c'est être patron de fait, hein, puisqu'il faut créer une start-up politique. Hein, comme j'avais publié ça sur LinkedIn en disant que je me lançais dans une nouvelle start-up à durée déterminée, à but non lucratif et à impact. Et c'était vraiment ça, puisqu'il a fallu créer l'équipe de zéro, une équipe qui a compté jusqu'à 14 personnes. Et puis durée déterminée, puisque même si l'échéance électorale a été légèrement repoussée, fin mars d'abord, puis fin juin, puis début juin, puis fin juin. Donc voilà, et à impact, oui, ça a eu de l'impact, hein, puisque la précédente liste écologiste avait fait 6,5% et on a fait 20% des
voix. Ouais,
ce qui est énorme en termes de progression, ce qui est énorme, c'est 100 000 personnes supplémentaires qui ont voté pour les écologistes. On s'est même dit qu'à un moment, on allait finir par gagner, et c'est aussi la conviction que c'est par le politique que cette question de l'écologie. Peut véritablement entrer dans les faits. Donc une très belle expérience que je regrette vraiment pas.
Super. Comment tu célèbres tes réussites ?
Comment gérer ma réussite? Ah, j'aime bien, historiquement, en entreprise, j'aimais bien faire des fêtes et des soirées. On met tout le monde dans une pièce, on réserve un bar, on boit des coups, on fait un discours, on chante, on fait la fête, on danse. Voilà, ça c'est collectivement, en tout cas, c'est comme ça que c'est ce qui me vient spontanément à l'esprit.
Et c'est quoi pour toi la réussite?
J'aime pas trop cette notion-là parce qu'il y a un côté un peu statique en disant voilà, c'est un objectif qu'on va atteindre, ça y est, j'ai réussi. Et puis, elle est connotée socialement. Il y a tellement de gens qui visent, je vise une réussite bien souvent par les aspects matériels. Donc, déjà, j'aime bien cette idée d'accéder à une situation de flux. Historiquement, en tout cas, je vais être moins dans un objectif et plus dans un flux, voilà, dans un état, et prendre du bonheur, ressentir de l'amour, de la joie sur le chemin. Après, voilà, réussite, c'est lié à cet état de bonheur et qu'il n'y a de vrai bonheur que partagé collectivement en entreprise, sentir que Là, par exemple, à la fin de la campagne, on a fait une fête d'ailleurs de bilan de campagne et j'ai invité les collègues à la maison. Et puis avant, on a fait quelque chose d'un peu studieux. C'est sur Klaxoon, qui est le logiciel de participatif, là, je suis au bord d'ailleurs. On a fait un Klaxoon où chacun a posté des post-it de qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on ferait mieux, c'était refaire. C'est mon côté tiré du son de nos expériences. Et puis à la fin, dans Klaxoon, on peut faire un petit sondage et je leur ai dit, si c'était refaire, est-ce que vous le referiez? 14 sur 14 ont dit oui. Donc, c'est une réussite pour moi.
Ouais.
Voilà. C'est que les gens ont pris du plaisir à cette aventure-là. Donc, c'est qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de l'amour qui circule. Là, c'est pour moi des bons signes de réussite.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Arnaud de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui?
Pour partie, j'ai conscience que j'ai été... la concrétisation de projections parentales. Et donc, à 6 ans, il était conscient des attentes potentielles. Et donc, il serait satisfait de cela. Donc, il y a une part de conditionnement qui m'apparaîtrait. Aujourd'hui, je me sens beaucoup moins... Dès lors que j'ai quitté ces rails-là, quelque part, de la direction d'entreprise, je suis plus en doute et en humilité, on va dire. Voilà, beaucoup plus ce sentiment qui m'anime aujourd'hui. Et pas un doute inquiétant, mais un doute nourrissant, on va dire, stimulant. Et donc, oui, il dirait, c'est bien, tu as fait le job de ce qu'on t'avait demandé de faire. Mais il serait peut-être surpris aussi de voir que, passé cette phase-là, je sois en une situation d'exploration de voies alternatives. Voilà.
C'est marrant parce que tu vois, j'ai interviewé Augustin Paluel-Marmont, donc le cofondateur de Michel et Augustin. Et là, il a une période donc de jachère suite au fait qu'ils ont vendu à Danone. Il a continué à travailler quelques années là-bas. Et puis là, il s'est fini. Et tu sens vraiment comme toi vraiment un moment où il se pose, où il réfléchit, où il est dans l'introspection, où il se dit OK. Clairement, alors lui, il dit pas Robocop, mais c'est un peu kiff-kiff-bourriquette. Et en fait, c'est fou de se dire que... Enfin, c'est fou et c'est beau de se dire qu'en fait, des personnes comme vous qui avaient été dans un succès médiatique et social, vous prenez le temps de réfléchir à ce qui est bon, ce qui est moins bon et de donner du temps aussi, du coup, aux autres pour pouvoir aider.
Beaucoup, ouais. Ça j'ai toujours fait beaucoup, j'aime bien ça, aider, contribuer, c'est gratifiant quoi, de partager. Ouais. Et bon, c'est certain que pendant la campagne électorale, j'ai pas trop pris le temps pour réfléchir, parce que c'était très prenant. Mais voilà, là, cette rentrée, là, je forme le vœu de laisser un peu plus de vide dans ma vie pour laisser devenir ce qui peut devenir d'une part, et puis et pas me forcer à inconsciemment ou inconsciemment, remplir mon agenda. Alors, ça suppose de dire non. Je dis beaucoup non, de plus en plus souvent. C'est toujours un peu désagréable, frustrant, mais j'essaie de donner une heure, mon temps, pour donner deux, trois pistes, et puis donner des noms aux gens qui pourraient répondre aux besoins des gens qui me sollicitent. Mais, alors, c'est pas une introspection, je suis pas un yogi dans mon jardin. Déjà, ça m'occupe pas mal, mais les sociétés que j'accompagne. Mais c'est certain que j'ai envie d'accueillir plus de vide et que je doute plus. Ouais, et puis, un sentiment d'humilité ouais, face aux choses. Singulièrement, cette question du climat, quand on voit l'ampleur que ça prend, on se dit waouh, qu'est-ce que je peux faire quoi. Rester humble et en même temps déterminé, voilà, à œuvrer. Et c'est certain qu'en tout cas, à son niveau, en prenant du temps, en étant plus en conscience, je pense que c'est une façon d'œuvrer, puis voir ce qui peut advenir.
D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, il disait un truc hyper pertinent, Augustin. Il racontait l'histoire, en fait, il est en train de réfléchir à un projet, mais il avait plein de pistes quand je l'ai rencontré, c'était il y a pile poil un an. Et il prenait l'exemple des 80 km/h et il disait. Arrêtons d'attendre qu'il y ait des lois pour faire des choses si on pense que c'est bien. Et il disait, par exemple, les 80 km/h, si tous les gens qui sont pour le fait de rouler à 80 km/h, ils mettaient un sticker à l'arrière de leur voiture, je roule à 80 km/h, et de se dire, si on pense que quelque chose peut avoir un impact, créons des communautés, entre guillemets, je pense que, et l'afficher, et arrêter d'attendre que on nous l'impose pour pouvoir être acteur.
Ah, j'adore. J'aime bien ce concept de responsabilité, finalement.
Ouais.
Je pense qu'on a matière à être... c'est Gandhi qui disait soyez le changement qu'on veut dans ce monde.
Exactement.
On n'est pas des victimes, on n'est pas passifs. On a la faculté d'agir. Et en cela, on est responsable. Donc, bien sûr, j'aime bien cette image.
À quel moment de ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ?
Oui, c'est-à-dire pourquoi pas moi, ça renvoie à c'est quelque chose que je ne pensais pas que je pourrais le faire, et puis finalement moi aussi. C'est une réponse un peu bateau, et puis qui est cohérente à ce que tu dis, c'est d'être patron, quoi. Effectivement, à un moment, je me suis senti capable de l'être quand on m'a proposé, ou quand c'est devenu possible, ou j'ai été aussi un peu le chercher, cette idée de devenir patron quand j'avais 32 ans. Donc je pense que oui, c'est à ce moment-là que je me suis posé cette question, ou je me suis dit ça.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi ?
Ben, quelque part, tu vois, j'ai choisi de pas être patron là. Donc tout ce qui je renonce au statut social qui peut y avoir, la forme d'excitation aussi qui va avec. Peut-être que ça me reprendra demeurant, hein, mais je ne sais pas. Mais c'est renoncer à cette tout ce que ça peut avoir de nourrissant, de bouillonnement, etc. Et de vie et de reconnaissance. Et pour autant, je trouve de la vie et de la reconnaissance et de la relation ailleurs. Et puis de la reconnaissance, j'essaie juste de la donner de moi à moi, indépendamment de ce que je peux faire.
C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as eu à gérer ?
La plus grosse difficulté que j'ai eu à gérer. Attends, je réfléchis parce que c'est pas évident cette question-là. Alors dans les entreprises, j'en ai toujours eu toutes sortes de difficultés par construction. On est une machine à gérer des problèmes quand on est patron. Plutôt que de te dire des difficultés opérationnelles, parce que ça, j'en ai eu. Je pourrais en faire des conférences.
Tu pourrais faire un podcast scientifique.
Ouais. J'ai même fait un jour, on m'a demandé de me faire une masterclass. Tiens, Arnaud, tu ne vas pas faire une masterclass d'entrepreneuriat. Et j'aime pas trop la posture du grand maître qui sait tout. Donc, j'ai dit, je vais vous faire une masterclass de toutes les erreurs que j'ai commises. Et en espérant que ça vous serve des sources d'inspiration. Et j'ai bien tenu plus d'une heure sur le sujet. Et j'aurais pu faire plus. Donc, pour répondre à ta question, la plus grande difficulté, c'est d'accepter le vide. Fondamentalement, donc ça veut dire savoir dire non, ça veut dire savoir se retrouver, créer des espaces de vide, quoi, ne rien faire. Voilà. Ça, c'est très dur pour moi.
Voilà. Et tu disais qu'on n'en avait pas reparlé quand tu as créé Symphonis, que on l'avait créé en pleine période, en effet, de crise.
Boursière.
Ça, on dit souvent que quand les entreprises se créent dans des moments de crise, si ça tient, c'est que c'est, j'allais dire entre guillemets, c'est pour la vie, mais on se comprend.
Ah, j'y crois, c'est évident. Je dis toujours, parce que les collègues, ils râlaient un peu, je dis, écoutez, on se muscle toujours plus en ramant contre le courant. Voilà l'image que je prenais. Et c'est certain qu'on se muscle plus, on se fortifie. Parce que, et je dis aussi que moi, je préfère une erreur dont on sait tirer des leçons qu'un succès dont on ignore la cause. Et quand tout va bien, on peut être juste porté par un marché, ça marche bien, mais en fait, on n'est pas forcément particulièrement doué. Et du coup, on peut se complaire, quoi. Il n'y a rien de pire que l'autosuffisance. C'est le pire des pièges. Ça ne vous invite pas à progresser. Voilà. Et donc, oui, alors quand faut-il survivre, c'est ça la question. Mais c'est vrai que ceux qui savent survivre dans une période difficile, et ça c'est souvent observé, hein, eh bien, parce qu'il y a des vagues, hein, il y a des cycles. Et quand la nouvelle vague, le nouveau cycle reprend, eh bien, ceux-là sont particulièrement mieux armés. Et puis, ils ont développé une culture de la frugalité. Beaucoup dans le monde des startups, ça s'est vu dans les années 2000, ça se revoit parfois un peu. On ne pense que par levée de fonds, et puis ils ont beaucoup d'argent, et ils dépensent un peu n'importe comment. Moi, j'ai toujours eu un côté paysan, et je considère que l'entreprise a la vocation de gagner de l'argent, parce que c'est la seule façon de pérenniser son modèle. Sinon, on finit toujours par être tributaire de financiers. Il y en a au début, mais je veux dire, c'est... La vocation de l'entreprise, c'est de satisfaire ses clients, ses salariés et gagner de l'argent, donc ses actionnaires. Et l'objectif, ce n'est pas de lever des fonds. Donc, il faut avoir en permanence cet objectif-là et il n'y a rien qui peut justifier des comportements alternatifs, quoi. Et donc, souvent, ces phases où tout va bien, il y a plein d'argent qui arrive et les gens ne comptent pas, ne mesurent pas, donc n'apprennent pas. Et mécaniquement, quand il y a un retour de fortune, ils en sont les premières victimes.
Tu disais que tu avais commis des erreurs, et c'est en effet façon ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que les erreurs, personne ne réussit sans faire des erreurs. C'est quoi du coup la plus grande et la plus grosse grande erreur que tu aies faite et du coup qui peut être un bon apprentissage pour les personnes qui nous écoutent?
Je parlais de ma première entreprise que j'ai créée quand j'étais à l'école. Voilà, j'ai fait toutes les grandes erreurs classiques, c'est-à-dire on part de son produit et pas du marché, quoi. Donc la première des erreurs, c'est pas partir de soi, quoi. Il faut plutôt aller vers écouter les besoins. Qui a quel problème et quelle solution je peux apporter. C'est pas parce qu'on est fort en technologie et qu'on a de savoir-faire que ça justifie tout. Donc ça, c'est la première erreur que n'importe qui peut faire quand il crée une entreprise. Voilà, alors après, l'autre erreur que j'ai pu faire, c'est que je faisais des dépenses marketing et puis je mesurais pas forcément le retour de tout ce que je faisais, quoi. Et puis très vite je l'ai mesuré et puis je voyais des choses qui je dépensais de l'argent parce que le commercial qui vendait de la pub il avait été bon, je ne fais pas de retour, donc là aussi toujours maintenant je ne fais que des choses que je sais mesurer en termes de retour sur investissement, en termes de communication. Voilà le genre d'erreur. Puis après oui, managérialement parlant, il faut savoir dire quand les choses ne vont pas. Faites des erreurs de recrutement. C'est difficile, le recrutement, c'est la science la plus difficile.
Ah oui.
Donc parfois prendre le temps de bien recruter. Et puis quand on intègre les gens, on leur donne les meilleures chances de succès d'intégration. Et puis quand ça ne va pas, savoir aussi dire que ça ne va pas et en tirer le son. C'est un moment important.
C'est quoi les plus grandes peurs que tu as ou que tu aies eues?
De décevoir la confiance des gens qui avaient placé leur confiance en moi. Voilà, c'est quand quelqu'un vous confie des grosses sommes d'argent, mais au-delà de l'argent, c'est qu'il vous fait confiance toi, pour réussir ça, et peur que de ne pas être à la hauteur de cette confiance qui a été placée en soi. Ça a été longtemps un moteur bien plus important que toute autre considération pécuniaire.
Et comment tu traites du coup cette peur?
Hélas, par du surcontrôle et du surinvestissement. C'est que, j'essaie de tout contrôler, tout piloter, tout bien faire, et ça consomme beaucoup d'énergie.
De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
Moi, je suis fier de mes enfants. Je trouve que je les aime bien. Je suis fier de la personne qu'ils sont. Je suis fier des emplois que j'ai pu créer en Bretagne à la faveur de toutes ces créations d'entreprises, ou aussi chez Nickel. D'ailleurs, quand je suis arrivé chez Nickel, j'ai proposé de faire grandir l'entreprise à Nantes, et aujourd'hui, à Nantes, il occupe plus de 300 personnes. Donc, c'est chouette, j'aime bien cette idée de pouvoir créer des emplois en Bretagne. Et ça, c'est une vraie fierté, on va dire. J'étais fier de cette campagne régionale, ouais, de voir que, en mettant en mettant en avant bien, correctement, en faisant bien passer les messages, les enjeux qu'il y avait autour de cette transition écologique dans une région comme la nôtre, on puisse faire prendre conscience aux gens. Ils sont déjà là, d'ailleurs, les gens s'en rendent compte, hein, mais il faut faire passer les messages, quoi. C'était gratifiant. Et puis le Comptical, c'est une très belle expérience, parce que c'est la banque, dans les bureaux de tabac, et c'est pas une banque, c'est des comptes courants, des cartes dans les bureaux de tabac. Et j'étais fier de faire grandir cette entreprise, parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup de sens, puisque plus de 50% de ses clients sont rejetés du système bancaire. Et donc de voir que on peut aider à l'inclusion sociale par l'inclusion bancaire, et ceci à grande échelle, avec un modèle pérenne économiquement. Parce que quand je suis arrivé, l'entreprise perdait pas mal d'argent, mais j'ai pu contribuer à ce qu'elle devienne rentable, et donc pérenne, et on attend des subventions de personne, et pour autant, tous les mois, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui peuvent se doter d'une carte et d'un RIB, sans lesquels on ne sait plus grand-chose dans ce monde moderne, et pour exister, quoi. Alors que, bien souvent, leur vie au quotidien n'est pas simple, donc ça c'est chouette. À chaque fois que j'ai pu utiliser mes compétences techniques au service de projets qui font du sens, j'en suis content, et c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus à travers les projets, les entreprises que j'accompagne, les projets politiques aussi.
Et petit clin d'œil, le compte Nickel, c'était vendu dans les tabacs, donc petit rappel. Avec
oui, exactement. Mais quand on est venu me chercher, j'avais vraiment le profil idéal, puisqu'effectivement, c'était vendu dans les tabacs, donc moi qui suis fils de buraliste, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. C'était aussi de laver une partie de banque en ligne, et je l'avais déjà fait avec Symphonis, donc c'est vrai que ça c'est de l'archétype de l'aboutissement des compétences que j'avais cumulées, des savoir-être, ce qui fait que ça s'est très bien passé avec les fondateurs, avec les actionnaires, avec les pluralistes et les partenaires, donc très, très belle expérience.
Si une personne ne connaît pas ta vie, va sur ton profil LinkedIn ou te voit citer dans la presse et te dit « Ah, mais en fait, tu n'en es là que grâce à de la chance », qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre ?
Oh oui, certainement. Bah, que je ne sais pas, mais en tout cas, certainement, oui. Oui, j'ai eu la chance, je le disais, de sur ce qui relève de mon investissement scolaire, j'ai des parents qui ont été, et singulièrement une mère qui avait de l'ambition sur ces questions-là, donc ça m'a poussé, avec des avantages et des inconvénients, mais ça m'a poussé à m'engager dans cette voie-là. J'ai eu la chance de rencontrer des managers exceptionnels très tôt, qui m'ont très tôt fait confiance, des gens comme vous et Schla, Jean-François Hans ou Dominique Andron, mais c'est parce qu'on parle, je dis souvent à des jeunes qui demandent des conseils dans leur début de carrière, comment s'orienter, c'est déterminant, c'est le manager que vous allez avoir. C'est d'abord ça, parce que n'importe quel business, on peut apprendre. L'argent, il sera toujours temps que vous en fassiez un jour, mais apprenez, et pour apprendre, il faut un manager qui ait l'envie de vous donner confiance, de vous faire confiance, de vous transmettre, et puis qu'il soit juste bon, donc qu'il soit un bon exemple. Donc j'ai eu cette chance-là, et d'aller dans un groupe aussi qui m'a fait confiance à travers ces hommes, à l'époque, le groupe Crédit Mutuel Arkéa. Et puis après, voilà, il y a pas mal de travail aussi, hein, qui va avec.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui ?
Je passe ma vie à donner des conseils aujourd'hui. Mais oui, il y a un conseil que j'aurais aimé. J'ai toujours voulu bien faire quand on est manager, on veut faire du bon élève, on veut tout bien faire vis-à-vis des autres, s'adapter. Alors, je parlais de moi en tant que Robocop, mais je n'étais hélas fort heureusement pas qu'un Robocop. J'étais souvent à l'écoute des besoins des uns des autres, essayer d'être disponible pour les collaborateurs, arranger, trouver des solutions. Et à un moment, assez paradoxalement, c'est aussi écouter ses propres besoins. C'est-à-dire qu'en tant que manager, on est tellement tourné vers les autres, les actionnaires qu'il faut satisfaire, les salariés qu'il faut satisfaire, les clients qu'il faut satisfaire, et pas s'oublier soi, en fait. Et on a le droit d'avoir des besoins, même si on est patron. Et il ne faut pas les oublier, parce que quand on les oublie, ils nous rattrapent toujours d'une façon ou d'une autre. Donc, assumer d'avoir des besoins, des besoins de sommeil, des besoins de disponibilité, des besoins de considération aussi, et en prendre conscience déjà, je pense que c'est, et de les assumer.
C'est, la connaissance c'est de soi et de ses besoins, de savoir comment on fonctionne pour pouvoir être au mieux déjà avec soi-même et puis du coup avec les autres aussi.
Oui, les connaître et les respecter. Voilà. parce que beaucoup de choses, moi, comme je me mettais beaucoup d'exigences, voilà, je pouvais négliger certains, mais parfois juste du sommeil, ou de la disponibilité d'esprit, ou la besoin de repos, ou un besoin de respecter des engagements que je peux avoir aussi, mais savoir le dire aussi, besoin de reconnaissance, de les connaître et de les assumer.
Voilà. Ouais. On en parlait avec Dorothée Tebart, que tu connais sûrement parce qu'elle est à Nantes, donc la fondatrice de Joe. Et elle disait, Dorothée, elle a une vie multiple parce qu'elle a été journaliste. Après, elle a fait du One Woman Show. Et maintenant, elle est la cofondatrice de Joe. Et elle disait qu'en fait, elle a un énorme besoin de créativité et qu'elle a un moment où, dans l'histoire de Joe, où elle était vraiment pas bien avec elle-même. Et elle s'est fait coacher. Et la coach lui a dit, mais écoute, si tu as besoin d'aller surfer en plein milieu de la journée, c'est pas parce que justement, tu es entrepreneuse, tu as cette liberté de pouvoir le faire. Mmh. Et potentiellement, la meilleure idée marketing que tu vas avoir, tu l'auras sur ton surf.
Tout à fait d'accord.
Plutôt que enfermé derrière ton bureau à pas bouger.
Complètement. Complètement. Ça, c'est vrai, ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut effectivement s'autoriser cette liberté-là.
C'est ça.
Et moi, typiquement, plus ça allait, ben, par exemple, j'ai besoin de marcher, moi. Et ben, je faisais des réunions en marchant. Je partais, je dis, oh, allez, viens, on va quitter, on va discuter, on va dehors et on marche. Voilà, parce que j'ai besoin d'être dans mon corps. Quoi, voilà. Et la créativité, bien sûr, s'autoriser ça. Quoi. Et on ne perd pas du temps. Mais c'est là aussi, il faut revoir son rapport au temps. C'est pas une perte de temps, on s'en fout. Parce que sinon, après, on a le cerveau oublié, à force de se mettre trop de trucs dedans. Ouais. Et on va se rafraîchir les neurones. Quoi. Mais on a toujours peur. Moi, je me mettais beaucoup de pression sur l'exemplarité. Donc, je voulais être exemplaire à l'égard de mes salariés, etc. Et j'ai tout moi-même dit, le présentéisme, je me l'infligeais moi-même.
Ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ouais, fais-toi confiance. Ouais. Je me souviens de Dominique Andreau, là. Il était mon premier manager. Vraiment. Il me faisait confiance. Fais-toi confiance. Allez, vas-y. Là, tu feras des conneries. Ça m'en fait jamais. C'est quoi. Et s'ils sont trop gros, je serai là pour te couvrir s'il faut. Quoi. Ouais, vas-y, fais-toi confiance.
Je rebondis sur ce que tu disais sur le présentéisme où on se l'attribue à soi-même. Souvent, moi, je me rappelle quand j'étais un petit pupiou dans l'entreprise et je voyais ma boss qui avait potentiellement plus de marge de latitude, je me disais « Ah, génial, le jour où je serai boss, j'aurais plus de flexibilité dans mon planning et tout. » Et en fait, je me rappelle, il y avait un job, celui pour lequel on est rentré vivre à Paris. Je travaillais, mais tous les soirs jusqu'à 23h, le week-end, travaillais, mais comme une malade. Je voyageais énormément, c'était vraiment n'importe quoi. Et je me rappelle, mon frère qui habite aux États-Unis vient pour Noël, et il me dit, allez bien, on va faire nos courses de Noël le vendredi, juste avant Noël. Et genre, je m'en vais le vendredi à 14h30. Mais j'avais une culpabilité, mais de ma boule mentale. Il me dit, mais Charlotte, mais si tu regardes, tu bosses toutes les nuits, tu bosses tous les week-ends, enfin, c'est bon, quoi. Et c'est fou, ce truc qu'on s'inflige à nous-mêmes, en fait.
Ah ouais. Mais de manière générale, si je peux donner un conseil, puisque tu vends des conseils, les phrases qui commencent par le jour où, c'est pas les bonnes.
C'est vrai.
Ça veut dire que c'est aujourd'hui le jour où.
C'est vrai, c'est un super conseil, j'adore. C'est quoi tes prochains défis?
Je pense que cette question, juste j'arrête pas de dire que je voudrais laisser du vide dans ma vie, je ne réussis pas. J'avais l'avais laissé, mais je me sortirai avec ce projet politique-là, et peut-être que ça va me reprendre. Je suis encore toujours un peu engagé, ça me titille. Mais pour faire le défi, c'était laisser un minimum de vide, tu vois, pour pouvoir essayer de venir les choses, véritablement. Donc, tu vois, j'ai encore un sujet là, toi. Faut que je dise non demain. Et ça m'embête de dire non à ce projet-là, qui est un projet de plus, on propose. Si je dis pas non, je ne saurais pas, j'aurais pas ce fameux vide-là. Donc voilà, mon prochain défi, c'est d'essayer le vide à venir. Et puis après, on verra. Et justement, offrir plus d'espace à la créativité, à la présence, etc., au corps. Ce serait magnifique si je pouvais faire ça. Donc, je challenge, mais on va voir.
Suivre.
Exactement.
Est-ce que tu as un conseil lecture?
Ah, oula, conseil lecture, Conseil lecture. Donc, quand on dit conseil lecture, c'est-à-dire un livre qui, que j'ai oui. lus et qui seraient inspirants. Des livres qui me. Pouvoir du moment présent qui m'a pas mal marqué.
Ouais, d'Edgar Cole.
Ouais, Cartole, je crois qu'il s'appelle
ouais, ça. Ouais, c'est les prononciations
ouais.
comme ça.
Ouais, c'est ça. Il a un nom imprononçable. Voilà, bon, lui, ça.
Edgar, appelons-le Edgar.
Edgar, oui. Voilà. Il s'appelle Edgar Cole. Et ouais, ce livre-là m'a pas mal marqué. Et puis ensuite, un des plus pratiques est de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la CNV, la communication non violente. C'est les mots sont des fenêtres et parfois des murs. Celui-là aussi fait partie des livres qui m'ont ouvert les yeux. C'est pas mal le sujet.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Oula, j'ai envie de dire merci. On parle des cartes qui à mon ami Abraham. Mon ami Abraham qui m'a fait les deux livres dont je viens de parler, c'est lui qui me les a fait découvrir. Lui avec qui on a commencé ensemble chez Accenture, qui a créé l'entreprise aussi, et qui a plutôt que moi été engagé sur ces questions-là de présence, de conscience, etc. Et c'est lui qui m'a invité à travailler la danse notamment. Donc, et qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de sujets. Merci aux managers que j'ai cités tout à l'heure qui m'ont. Echelard, Jean-François, sous Dominique Andro, qui m'ont fait confiance, et puis qui ont été exemplaires, qui m'ont été source d'inspiration. Et puis, merci aussi aux femmes qui m'ont accompagné dans la vie. J'ai vécu plusieurs femmes dans ma vie, et chacune m'a apporté beaucoup, avec des regards différents, et donc je voudrais leur dire merci.
Merci beaucoup, Arnaud.
Merci à toi pour ton écoute et puis le plaisir.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Pour moi, c'est énorme. Je vous dis à demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.